VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcil et John Lyndon. Ce soir, dans Le Monde Aujourd'hui.
Le sort de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré est connu. Les chambres africaines de Dakar l'ont condamné aujourd'hui à la perpétuité.
C'est un message pour les générations futures. C'est un message en direction des révisionnistes qui n'auront plus le droit de chanter leur propagande infâme.
VOA Afrique vous propose un dossier spécial avec notre correspondante dans la capitale sénégalaise.
Les avocats des deux camps.
Les réactions à N'Djamena.
Une analyse de ce procès qui marque un tournant, Hissène Habré étant le premier ancien chef d'État africain à être jugé sur le continent.
Nous ferons également un tour d'horizon sur l'actualité panafricaine et mondiale. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 30 mai 2016.
Le verdict est enfin tombé dans le procès Hissène Habré.
Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Le président du tribunal spécial, le magistrat burkinabé Berdado Gustave Kam.
L'ex-président tchadien écope donc de la prison à vie. Les juges des chambres africaines spéciales de Dakar ont ainsi mis fin à une étape importante du processus devant rendre justice aux multiples victimes de celui qu'on appelait l'homme fort de N'Djamena. La sentence a été saluée par l'accusation et la partie civile. Quant à la défense, elle prévoit d'interjeter appel. Sur place à Dakar, Sokhna Nata Mbaye.
À l'annonce de la décision, c'était cri de joie pour les victimes et désolation pour les proches de Habré. L'ancien président tchadien a été condamné à la prison à perpétuité. Pour Aboubakri Mbotch, secrétaire général de la RADO, rencontre africaine de défense des droits de l'homme, il faut maintenant se focaliser sur l'indemnisation.
Pour que aujourd'hui ces victimes soient soulagées, que leur famille soit soulagée, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas pu assister à ce procès, qui ont perdu la vie, mais leurs familles ont droit également à l'indemnisation, leurs enfants ont droit à l'indemnisation. Voilà les réactions et les recommandations fortes que nous adressons à l'Union africaine.
Pour un des avocats de la partie civile, la peine prononcée est à la hauteur des actes commis et le verdict constitue un message. Maître William Bourdon.
C'est un message pour les générations futures. C'est un message en direction des révisionnistes qui n'auront plus le droit de chanter leur propagande infâme sur le fait que Hissène Habré aurait été une espèce de victime d'une persécution politique. Et puis enfin, c'est un puissant message de dissuasion. 20, 30, 40 ans après, quand on offense l'humanité, eh bien on est obligé de rendre compte à l'humanité et c'est aujourd'hui en terre africaine que ça se passe.
Les avocats de la défense, eux, n'écartent pas la possibilité de faire appel. Maître Mounir Balal.
Nous sommes en train de nous concerter, mes confrères et moi, donc en ce qui concerne l'opportunité, bien sûr, d'un appel. Et je pense qu'en tout état de cause, appel, il y aura.
À compter de ce jour, les avocats de Hissène Habré ont 15 jours pour interjeter appel. Mais en attendant, l'ancien chef d'État tchadien regagne sa cellule à la prison du Cap Manuel. Sokhna Nata Mbaye, Dakar, VOA Afrique.
Au Tchad, les victimes se réjouissent de la condamnation à perpétuité de l'ex-chef d'État Hissène Habré. La correspondance d'André Kodmajinga.
Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Berdao Gustave, président du tribunal des chambres africaines extraordinaires en charge du dossier Hissène Habré. Dès l'annonce de cette sentence, les victimes qui suivaient ce procès historique à la minute près en direct de N'Djamena, à travers un petit écran installé à leur siège, éclatent de joie. Durant son règne de 1982 à 1990, Hissène Habré était président de la République, chef suprême des armées, puis ministre de la Défense. Il a créé et entretenu un système où la terreur et l'impunité sont érigées en règle. Ses victimes se réjouissent de la condamnation de leur bourreau.
Je suis soulagé parce que justice a été rendue.
Tout ce que je demande, qu'il soit pardonné. Et je remercie le Seigneur d'avoir écouté la voix des orphelins et des veuves.
Aujourd'hui, 30 mai 2016, reprenons ensemble plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Le gouvernement tchadien prend acte de ce verdict qui, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est une victoire pour les victimes et pour leurs conseils.
Nous ne
avant que prendre acte de la décision rendue et nous féliciter du verdict, surtout rendu par une juridiction mise en place par l'Afrique pour juger l'ex-dictateur Senabré. C'est une fierté pour nous tous, tout en relevant que les partis disposent d'une quinzaine de jours pour faire appel. Le gouvernement reste mobilisé auprès des victimes, comme il a eu à le faire par le passé. C'est une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour le gouvernement tchadien et une victoire pour les partis défendant les droits humains à travers le monde.
Moustapha Ali Alifoui se prononce également sur l'indemnisation de ces victimes.
Le verdict qui vient d'être fait est un verdict au pénal. Il y aura une juridiction civile qui va engager les partis et prendre en compte cet aspect de la question. Il est évident qu'au niveau du Tchad, lorsque le procès s'est déroulé pour les complices, il y a eu effectivement des saisies des biens des uns et des autres afin d'indemniser les victimes. Donc, dans la phase actuelle, il y aura un appel. Et puis, après l'appel, le gouvernement donnera une position beaucoup plus claire et beaucoup plus déterminante sur ce qui va se faire par la suite.
André Kotumadjinga Ndiamena pour VOA Afrique.
Aucun homme aussi cynique soit-il ne peut être indifférent à autant d'atrocités, de calamités qui ont été décrites tout au long de ce procès, a dit à VOA Afrique Maître Hassan Diomandiaye du collectif d'avocats des victimes de Hissène Habré. Joint à Dakar par Nathalie Barge, voici d'abord sa réaction.
Un réel sentiment de satisfaction et de soulagement, d'abord à l'endroit des victimes qui ont fait preuve de patience, d'abnégation et d'obstination pour obtenir ce procès et ensuite voir leur statut de victime consacré aujourd'hui par la Chambre africaine. Et également un grand soulagement pour le fait que l'Afrique ait relevé ce grand défi, le défi de juger un de ses fils en respectant tous les principes d'un procès juste et équitable et en démontrant qu'elle est capable de prendre en charge ses propres destinées. Et ça, je crois que pour nous qui militions en faveur des droits de l'homme en Afrique, c'est un grand jour qui se lève.
Quelle a été la réaction de Hissène Habré?
Comme d'habitude, il a été toujours froid, imperturbable, même si nous savons qu'au fond de lui-même, il doit avoir des remords d'avoir été à l'origine de toutes les atrocités qui ont été retracées devant lui, devant l'Afrique, devant le monde. Je crois que, au-delà de sa supposée sérénité, je pense que c'est un homme qui doit être meurtri dans sa chair. Aucun homme, aussi cynique soit-il, ne peut être indifférent à autant d'atrocités, de calamités qui ont été décrites tout au long de ce procès.
Il a la possibilité d'interjeter appel. Cependant, où va-t-il purger sa peine?
Tout dépend de lui. De toute façon, a priori, le Sénégal est le lieu le plus indiqué. Mais en matière de justice pénale internationale, nous savons que la personne qui est condamnée peut demander à aller purger sa peine dans un pays qui accepterait de l'accueillir. Mais si d'aventure il y avait une procédure d'appel, je crois qu'il resterait au Sénégal en attendant que la procédure soit définitivement purgée.
Qu'en est-il de ses avoirs?
Nous sommes dans la phase de culpabilité. Nous savions que nous ne pouvions pas faire des demandes. C'est le parquet qui avait demandé une confiscation. Mais pour nous, la saisie conservatoire qui a été faite demeure. Et le moment venu, quand il s'agira de formaliser les constitutions de partie civile, évidemment, nous demanderons à ce que ces avoirs soient confisqués et versés dans le fonds qui sera institué pour la prise en charge de l'indemnisation des victimes.
Maître Hassan Diomandiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.
La condamnation de l'ancien président tchadien est très mal digérée par ses partisans. Son avocat rappelle que son client a toujours rejeté la compétence des chambres africaines extraordinaires où son client est jugé depuis juillet 2015. La décision rendue par le tribunal ce lundi ne surprend donc pas dans le camp Habré, ainsi que l'a déclaré Maître Ibrahima Diawara.
Ce qu'on retient tout simplement dans cette affaire, en ayant entendu aujourd'hui le délibéré qui a été vidé, c'est que malheureusement, les chambres africaines extraordinaires viennent de nous dire qu'en Afrique, les présidents de la République peuvent être poursuivis et déclarés responsables dans leur propre pays pour tout ce qui se passe dans les commissariats de police, tout ce qui se passe dans les brigades de police, tout ce qui se passe dans les services de sécurité et tout ce qui se passe concernant le fonctionnement de leurs armées. Je pense qu'il y a des présidents africains qui ne doivent plus dormir.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Pour nous, cette affaire est terminée le jour où les juges des chambres africaines extraordinaires
ont refusé d'accepter la stratégie de défense qui a été mise en place en accord avec notre président Hissène Habré et qu'elle avait pris la décision de nous écarter de la procédure et de choisir elle-même des avocats qui étaient prêts à défendre le président Hissène Habré comme le voulaient les chambres africaines. Ceux-là qui ont été choisis d'office contre la volonté du client qu'ils défendaient et qui ont été payés par ces chambres africaines, je pense que ce sont ceux-là aujourd'hui qui ont des réponses à donner sur l'exercice ou non des voies d'appel.
Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le président Hissène Habré est un dictateur et qu'il mérite bien cette sentence, voire plus?
Oui, alors quand des gens vous appellent dans une chose qu'ils appellent justice et pour laquelle vous vous rendez chaque jour qui passe, qu'elle fonctionne au-delà des normes de la justice ou des fois en contradiction des normes de la justice, il est normal que ces gens-là disent ça parce que ça ne traduit que leur volonté, que cette affaire n'a jamais été une affaire de justice, mais qu'il suffisait simplement pour ceux qui hier, adversaires de Hissène Habré, avaient perdu, ont réussi à transformer leur défaite politique en affaire judiciaire pour arriver à la mettre hors d'état de nuire, le président Habré.
Maître Ibrahima Diawara, l'un des avocats d'Hissène Habré, condamné aujourd'hui 30 mai 2016 à la prison à perpétuité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, des organisations ivoiriennes de défense des droits de l'homme, partie civile au procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, ont annoncé aujourd'hui leur refus d'y participer, dénonçant à la veille de son ouverture un jugement organisé à la va-vite. Dans un communiqué conjoint, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, et le mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, qui disent représenter près de 250 victimes, ont annoncé leur décision, dit l'AFP, de se tenir à l'écart de ce procès.
En Somalie, un tribunal a condamné deux hommes à la prison à vie ce lundi pour avoir planifié l'attentat du 2 février contre un avion de ligne au départ de Mogadiscio. Un engin explosif avait explosé à bord d'un Airbus A321 de la compagnie régionale Dahalo Airlines, peu après le décollage, avec 74 passagers à bord. Les islamistes du groupe Al-Shabaab avaient revendiqué la responsabilité de l'attentat, dont la seule victime a été le présumé poseur de bombes.
Moïse Katumbi s'éloigne davantage de la République démocratique du Congo. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat déclaré à la présidentielle est arrivé à Londres ce week-end après avoir laissé l'hôpital de Johannesburg où il recevait les soins. L'un des avocats de M. Katumbi, George Kapiamba, a confirmé à l'AFP que son client se repose dans la capitale britannique depuis samedi, un jour après son départ d'Afrique du Sud. Une source proche indique qu'il pourrait se rendre bientôt en France, en Belgique et en Allemagne. Cependant, a poursuivi Maître Kapiamba, Moïse Katumbi rentrera dans son pays, la RDC, à une date ultérieure.
Avigdor Lieberman devait être investi ce lundi par le Parlement israélien comme ministre de la Défense. La Knesset avait prévu un débat avant de se prononcer sur l'entrée de cet homme politique ultranationaliste au sein du cabinet de Benjamin Netanyahou. À ce poste, M. Lieberman supervisera autant pour moi l'action dans les territoires palestiniens et il a promis de se montrer raisonnable après des années de rhétorique agressive. Un membre de son parti, Sofa Landwehr, deviendra ministre de l'intégration. Certains commentateurs font remarquer que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël.
La France se prépare à de nouvelles grèves, notamment dans le secteur des transports, alors que se poursuit le mouvement social contre la réforme du droit du travail. Le gouvernement du Premier ministre Manuel Valls n'a donné aucun signe de vouloir faire machine arrière. Des grèves sont prévues à partir de demain dans les chemins de fer, à partir de jeudi dans le métro parisien et bientôt chez les pilotes de la compagnie Air France. La grande question, la fronde sociale en France s'arrêtera-t-elle avant le début de l'Euro 2016 de football? La compétition démarre, on se le rappelle, dans moins de 2 semaines.
Le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué la volonté de son pays d'être le premier à rouvrir son ambassade à Tripoli. Lors d'une conférence de presse dans la capitale libyenne, Mevlut Cavusoglu a également discuté du possible rétablissement des liaisons aériennes directes entre Istanbul et Tripoli de la compagnie Turkish Airlines. Les entreprises turques souhaitent reprendre leurs activités dans les secteurs des transports, des communications et surtout de l'énergie, qui est une priorité pour la Libye en ce moment, a expliqué M. Gavuzoglu. Mais tout dépendra de la situation sécuritaire, a-t-il ajouté.
Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Gabi Dorsil et John Linden en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Mali.
Au Mali, l'Union africaine maintient le cap pour la mise en application de l'accord d'Alger malgré la suspension du mouvement de l'Azawad et de la plateforme des mouvements armés pro-gouvernementaux de leur participation au sous-comité chargé de l'application de cet accord. L'Union africaine parle d'incidents de parcours, mais estime que les préoccupations exprimées par les deux mouvements partis à l'accord doivent trouver de solutions. Eric Manirakiza a joint à New York le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président du Burundi, le major Pierre Bouyoya.
Je pourrais appeler ça un incident de parcours, comme il y en a eu beaucoup. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de suspension, qui sont, je pense, des messages de protestation. À ce que je sache, on est déjà au-delà de cet incident parce que on a continué à travailler et nous espérons que, en préparation du comité de suivi qui aura lieu le 2 et le 3 juin, que le dialogue aura repris et surtout qu'on aura pu résoudre le problème qui était en débat, qui concernait ce problème compliqué de ce qu'on appelle là-bas les autorités transitoires.
Les deux organisations ont soulevé deux problèmes majeurs. Est-ce que ça vous paraît légitime?
Les partis à l'accord de paix ont toujours le droit de soulever des préoccupations qu'ils considèrent comme légitimes. Maintenant, il faut que le débat ait lieu et qu'on puisse voir si on peut arriver à un terrain d'entente, mais sinon, nous qui sommes de la communauté internationale, on accepte que chaque parti puisse soulever des préoccupations légitimement.
Justement, la communauté internationale est pointée du doigt comme quoi elle s'ingère trop, ce qui a poussé d'ailleurs à ces deux organisations de suspendre leur participation selon leurs explications.
Non, vraiment, ce n'est pas une protestation en termes d'ingérence. Je pense que le message tel que je l'entends, c'est de dire, écoutez, on a trop traîné à résoudre un problème qui nous préoccupe. Nous prenons une attitude qui montre à tout le monde, surtout pas vraiment à la communauté internationale, mais au gouvernement malien, que nous sommes sérieux dans ce que nous disons.
Vous qualifiez ça d'un incident de parcours. Comment éviter une telle déconfiture dans le futur?
Le problème qui est posé là-bas, c'est qu'on est en pleine application de l'accord de paix. Il y a des questions compliquées qu'on ne parvient pas à résoudre aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est le cas aujourd'hui avec cette question concernant les autorités intérimaires. Ce qui est important, c'est que tout le monde garde à l'esprit que, malgré que c'est difficile, malgré que ça prend plus de temps que prévu, il faut trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas une solution, ça veut dire que tout l'accord est cassé là-bas, ce qui est inacceptable.
L'ancien président du Burundi, le major Pierre Bouyoya, joint à New York par Eric Manirakiza.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Cap sur le Bénin, où l'opinion publique s'accorde à penser de plus en plus, nous signale notre correspondante Ginette Fleur à Dandé, que les cadres livrés sur le marché manquent de compétences. Le mal viendrait du système éducatif. Ginette.
L'école béninoise a besoin d'être sérieusement repensée si le Bénin tient à retrouver la place de quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, le constat qui se fait est inquiétant et interpelle la conscience des gouvernants sur la qualité des cadres censés travailler au sein de l'administration béninoise dans les prochaines années. Les apprenants s'expriment mal et cela met dangereusement en cause la qualité des enseignants qui animent aujourd'hui le système éducatif. Suivez plus tôt.
Oui, je suis élève en classe de 4e. Je suis les décennies. Je suis ça parce que
ça me sonne bien à l'oreille.
Il y a de l'arabe qui sonne bien à l'oreille. C'est parfait.
Il voulait vivre à lui. Au lieu de se freiner un peu là, il s'est freiné brusquement. Il n'a pas pu trouver encore le frein.
L'utilité de la presse béninoise, moi, je ne trouve pas. Parce que ce qu'ils vont dire là, ils se déraillent un peu.
Le programme d'approche par compétences, les grèves perlées, sont entre autres raisons brandies pour expliquer la déchéance du système éducatif. Les enseignants reconnaissent le faible niveau des apprenants, mais pensent que les causes sont bien ailleurs.
C'est réel, mais il vaut mieux ne pas dramatiser la situation. Simplement parce que moi, je n'ai pas commencé l'école à 3 ans. Je n'ai pas commencé l'école à 4 ans. Pas commencer l'école à 5 ans. Est-ce que l'enfant a l'âge, la maturité de comprendre tout et de pouvoir raisonner comme dans le vieux temps? Les gens n'ont pas eu le temps de comprendre leur langue maternelle. Ils n'ont pas eu le temps de discuter avec les parents, de s'amuser. Au cours de l'amusement, il y a de l'apprentissage. L'enfant apprend beaucoup en s'amusant avec les parents. Et on va directement à l'écriture, les grèves perlées qui durent. Et tous les ans, l'année scolaire n'est jamais exécutée à 100%. Vous comprenez avec moi que et l'enfant passe en classe supérieure, il est clair que cet enfant-là peut avoir des problèmes.
Mieux, certains pensent que la parité tant brandie par les femmes serait l'une des causes primordiales.
Aujourd'hui, l'égalité de la femme dans la famille aussi crée des problèmes que dans les ménages, qu'on arrive à reconnaître l'autorité du père au moment où le père doit parler et la mère tendre, douce. L'enfant peut se recueillir auprès de sa mère et se confier à sa mère.
Mais le fait est là, les jeunes enseignants qui sont aujourd'hui recrutés sont peu formés et ne sont pas aptes à former d'autres jeunes. Le mois de juin est réservé aux différents examens dans le système éducatif au Bénin. Les parents retiennent leur souffle en espérant que les résultats au bout du compte ne soient pas aussi catastrophiques que ceux des années précédentes. De Cotonou, Ginette Fluadondé pour VOA Afrique.
C'est un jour des commémorations aux États-Unis. Comme chaque année, lors du dernier lundi du mois de mai, les Américains observent le Memorial Day, un jour de congé officiel pour rendre hommage aux membres des forces armées américaines morts au combat, toutes guerres confondues. Cette fête du souvenir marque aussi le début officieux de l'été. Petite incursion dans l'histoire avec Jacques Aristide.
1861-1865, les États confédérés d'Amérique menés par Jefferson Davis sont en guerre contre les États de l'Union dirigés par Abraham Lincoln qui veut abolir l'esclavage. Cette guerre civile, également appelée guerre de sécession, fait plus de 550 000 victimes. Durant et à la fin de ce conflit très meurtrier, nombreux sont les Américains qui commencent à placer des fleurs sur la tombe des soldats tués sur le champ de bataille. Une pratique qui finit par devenir un jour de commémoration le 30 mai 1868, ce qui est alors connu comme le Decoration Day est célébré la première fois au cimetière national d'Arlington, dans la banlieue de Washington DC. À partir de 1882, ce jour est rebaptisé Memorial Day. Après les deux guerres mondiales, les Américains profitent de cette journée pour également honorer les soldats tombés pour la patrie. En 1971, le Congrès en fait un jour férié et fixe sa commémoration au dernier lundi de mai. Comme à l'accoutumée, le président américain s'est rendu en ce lundi au cimetière d'Arlington. Mais dès samedi, dans son message hebdomadaire à la nation, Barack Obama a commencé à saluer les héros tombés au front.
C'est le jour où nous nous souvenons de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux, ceux qui n'ont jamais eu la chance de retirer l'uniforme et d'être honorés en tant qu'anciens combattants. C'est le jour où nous nous arrêtons pour réfléchir avec gratitude aux sacrifices faits par plusieurs générations pour nous permettre aujourd'hui d'être plus prospères et libres et aussi pour avoir une pensée pour les êtres chers qu'ils ont laissés derrière.
Pour respecter le rituel, à 15h, un moment national du souvenir unit les Américains dans la prière et dans les pensées pendant qu'ils réfléchissent justement aux sacrifices faits pour eux. Les événements organisés pour le Memorial Day sont divers et vont de manifestations sportives, comme la course automobile Indy 500 à Indianapolis, aux défilés et concerts à travers le pays. Bien entendu, des gerbes et couronnes de fleurs sont posées, des remerciements offerts et les têtes baissées en hommage à ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour la patrie. Et c'est la raison pour laquelle le chagrin peut gagner les Américains, alors même qu'ils profitent de leur long week-end et se prépare te joie de l'été. Car en quelque sorte, ce jour signifie pour les commerces le début de la période estivale, un week-end durant lequel nombre d'Américains font de longs trajets pour se rendre chez leur famille ou amis ou encore à la plage. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou à un autre, beaucoup d'Américains penseront au sens véritable de ce jour.
Et on termine comme on a commencé par le procès Hissène Habré. Vous l'avez peut-être déjà entendu, les chambres africaines extraordinaires de Dakar au Sénégal ont rendu leur verdict aujourd'hui. L'ex-homme fort de N'Djamena a été condamné à la perpétuité. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint Maître Joseph Fa, un avocat camerounais à Silver Spring dans le Maryland.
En matière de compétences universelles sur le territoire africain, moi je pense que c'est la consécration du droit la consécration du droit universel, la consécration des droits de l'homme, le tribunal pénal international étant l'unité qui est chargée de la réglementation ou alors de renforcer les droits universels à compétence internationale pour juger les chefs d'État et pas seulement africains, mais tous les autres pays. Donc, en matière de compétences, moi je pense que le TPI, pas qualité, et la condamnation... Également, c'est pour dire aux Africains que les exactions en matière de droits humains ne resteront jamais impunies, même si au niveau de leurs pays locaux, ils ne peuvent pas avoir accès à la justice parce que les tribunaux sont déjà corrompus. En matière internationale, ils ont toujours des voies de recours.
Alors, que peut-on dire finalement du rôle de la société civile dans ce type de procès ?
Mais la société civile, je pense que la condamnation n'aurait jamais été possible sans le rôle de la société civile, puisque ce sont les victimes, ce sont les témoins de la prosecution, bien du procureur de la République, et ils sont aux côtés du procureur pour appuyer, pour témoigner de ce qu'ils ont subi. Donc, avec la pression que la société civile pose et le rôle que la société civile joue, moi, je pense que la condamnation ne serait jamais possible si on n'avait pas parti, si on ne leur demandait pas leur avis ou bien si on ne leur donnait pas pouvoir.
Alors, que dire également de la volonté politique ? Car dans le cas du procès Hissène Habré, les observateurs se plaignent notamment d'un manque de collaboration du gouvernement tchadien.
Et tout à fait. Vous revenez à la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Au niveau des tribunaux étatiques, il n'y a pas une volonté de condamner les coupables des exactions des droits humains, notamment au niveau du Tchad, où les victimes n'auront jamais eu accès à la justice. Donc, la coopération ou bien l'accès ou bien les barrières soulevées par les pays, le Tchad par exemple, c'est justifié. Personne ne veut condamner le champ de son État parce que chacun passera certainement par là. Parce que, comme vous le connaissez vous-même, tous les chefs d'État, la plupart des chefs d'État africains sont d'une manière ou d'une autre, seront appelés devant le TPI un de ces quatre matins. Donc, personne ne veut témoigner contre son frère. Il faut donc un tribunal indépendant pour garantir la sécurité, la liberté des droits individuels et collectifs. Et le tribunal indépendant, je pense, c'est le TPI, le tribunal pénal international.
Alors, sur le continent africain, que dire également de la collaboration entre les États, surtout en matière de droit international ?
En matière de droit international, la collaboration, en fonction de quoi est-ce qu'il est question, moi je pense qu'en matière de droit criminel, la collaboration est soudée dans le sens où personne ne veut être témoin, personne ne veut se porter garant de la sécurité des droits individuels. Moi, je ne pense pas que la société civile ou alors les citoyens des pays africains peuvent trouver justice au niveau des pays africains.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Martin Kerches, présentation John Lyndon et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Nous essaierons d'y répondre dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos. 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.